Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et le moment est venu de notre escapade quotidienne sur Europe 1 en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Alors, où nous conduisez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, je vous emmène au poste, Julia.
Ah bon ?
Et oui, vous allez me suivre sans faire d'histoire jusqu'au 36 quai des Orfèvres, l'adresse mythique de la police judiciaire. Nous allons en effet nous replonger dans les grandes heures de la criminelle, bien sûr, mais aussi de l'anti-gang, de la mondaine et de la brigade de répression du banditisme.
Et avec un peu de chance, on pourrait tomber sur le commissaire.
Eh bien, vous croyez pas si bien dire. Le héros de Simenon va nous servir de cicérone, de même que deux grands flics en chair et en os qui vont venir nous rejoindre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'époque, c'est celle des années folles et de l'art déco de Mistinguette et de la création du Lido, de la naissance de Mickey Mouse et du Boléro de Ravel. C'est aussi la grande époque du milieu et de tous ses contours, du milieu et du demi-monde, pour ne rien dire des 100 grades de la petite truanderie, demi-celle et autres voyous de barrière. On est en pleine forêt d'Arminvilliers, entre Ozoir-la-Ferrière et Tournan-en-Brie. On est donc à l'est de Paris, ce mercredi 29 février 1928. 4 chauffeurs-livreurs, faut les imaginer avec casquette, foulard et le mégot au bec. Ces 4 chauffeurs voient des flammes s'élever dans un fossé au bord de la route. Alors ils arrêtent leur fourgon, ils courent en direction du sinistre et là, choqués, ils réalisent que ce qui est en train de brûler, c'est un cadavre enroulé dans une couverture aspergée d'essence. C'est la CRIM qui va être saisie de l'affaire, en lien avec la première brigade mobile. Les hommes du commissaire Guillaume ne sont pas longs à identifier la victime. C'est pas très difficile, elle portait des étiquettes cousues à ses vêtements. Il s'agit d'un certain Gaston Truffem qui était courtier en bijoux. Alors, on commence à interroger, bien entendu, tous les témoins possibles, à commencer par la cousine de la victime, qui est aussi son, qui était, en tout cas, son employeur. Et les enquêteurs apprennent que ce jour-là, Truffem devait rencontrer un de ses clients, qu'il était parti le voir avec sur lui 130 000 francs et une traite à encaisser. Qui est le client en question? C'est un joaillier du nom de Mestorino. Ça y est, Mestorino. Le nom est prononcé. Le brigadier Mougel fit l'interroger le dit Mestorino. C'est un bon commerçant, faut l'imaginer, hein, le bonhomme assez sûr de lui, il porte beau. Il affecte d'être complètement bouleversé par la mort du courtier. Il est allé, c'est peut-être le détail de trop, il est allé jusqu'à mettre un crêpe noir à son chapeau. « Je lui ai réglé sa traite, dit-il, on a bavardé, et il est reparti. » Ouais, c'est un peu court. « Simplement, ajoute Mestorino, oui. » Eh bien, il m'a dit qu'il se méfiait car il avait rendez-vous dans l'après-midi avec des individus peu recommandables. Ah tiens, le brigadier fait son rapport, le commissaire Guillaume lit tout ça et il fait part de ses doutes tout de suite à propos du dit Mestorino. « Amenez-le-moi, marmonne Guillaume, que je vois un peu ce qu'il a dans le ventre. » Voilà donc notre Mestorino convoqué au 36 quai des Orfèvres. Là, il renouvelle son témoignage, non sans laisser échapper de petits signes de nervosité que tout de suite le commissaire n'est pas sans remarquer. On interroge ensuite Madame Mestorino, capiteuse Madame Mestorino, qui dans le cours de sa déposition laisse échapper la phrase suivante. « Je crois qu'il a parlé, quand elle dit « il », c'est la victime, il a parlé d'une maîtresse qui habiterait vers Tournant. » Tournant en Brie, mais ça c'est tout près de l'endroit où a été retrouvé le corps. Le commissaire fronce les sourcils. « Notez ça, Massu », indique-t-il à son adjoint. À l'issue de l'interrogatoire, un inspecteur note le regard angoissé de Mestorino, un regard qu'il adresse à sa femme. Ils ont même un échange pas très net comme ça dans le couloir. Tout ça est noté, bien entendu, tout est répertorié. Quelques jours plus tard, nouvel interrogatoire de Mestorino, toujours au quai des Orfèvres. « Où était votre voiture le jour où Truffem a été tué ?» Au garage, elle était au garage pour une retouche de peinture. Le commissaire Guillaume fait entrer le patron du garage, qu'il avait déjà convoqué, et qui confirme. Puis on introduit les employés d'une station-service, d'une station d'essence, on disait à l'époque un poste d'essence proche de la scène du crime. Les employés ne reconnaissent pas en Mestorino l'homme qui leur avait acheté des bidons d'essence. Donc, chou blanc pour les enquêteurs. Seulement Guillaume, qu'on surnomme le têtu dans le métier, ne s'avoue pas vaincu pour si peu. Il a l'intuition que Mestorino pourrait bien avoir gager quelque chose au monde piété. Il est en difficulté, ce type. Ça se voit. Bien vu, le joaillier avait en effet engagé pour 100 000 francs de bijoux au monde piété, chez ma tante, comme on disait. Or, il les a dégagés moins de 2 jours après la mort de Truffem. Ça commence à faire une belle piste. Nouvel interrogatoire du suspect numéro 1, mais entouré cette fois de toute une mise en scène. On a commencé par mettre Mestorino en confiance, puis Guillaume a surgi comme s'il était en retard. Oh, toutes mes excuses, messieurs, pour ce retard. Je vous ai fait revenir pour régler un détail de procédure. Figurez-vous que mon brigadier a oublié de noter l'heure à laquelle vous avez reçu ce jour-là le pauvre monsieur Truffem. Ah, c'était 10h du matin, commissaire. Ah, voilà, merci. Mais alors, dans ce cas, mon problème est le suivant. Comment avez-vous pu payer cette traite? Nous savons que vous avez revendu quelques pierres à perte, dont celle achetée à Truffem. Ah oui, mais j'ai emprunté la somme à ma mère et à 2 confrères. Quand ça? Le 26 février. Ah donc, la veille du crime. Eh bien, mais nous allons vérifier. Mais c'est la vérité, monsieur le commissaire. Une vérité qui, malheureusement, ne sera pas confirmée du tout par les 2 confrères. Finalement, Mestorino s'effondre, j'ai menti, admet-il. Mais s'il se retracte sur ce point précis de l'emprunt, il continue d'affirmer qu'il a bien payé la traite. À 21h, tandis que la plupart des enquêteurs sont descendus dîner, Guillaume passe le relais à l'inspecteur Massu qui fait preuve de psychologie, qui dédramatise le mensonge du matin. Et là, Mestorino admet. D'accord, quand il est venu le matin, je n'avais pas l'argent. Je lui ai proposé de revenir le soir, mais il n'est jamais repassé. Alors, j'ai menti, j'ai dit que j'avais payé cette maudite traite. M'a su fin la bienveillance. Seulement quand Guillaume revient, lui souffle le froid. Alors, comment l'avez-vous tué? Mais ce n'est pas moi! Mestorino, 2 heures durant, va faire face de nouveau aux 6 enquêteurs qui se relaient mais qui se mettent parfois à 2, puis à 3 pour l'interroger. Il va finir par craquer un peu après minuit et c'est pour soulager sa conscience. Il explique que Truffem est repassé sur les coups de 16h, que le ton à ce moment-là est monté, que les 2 hommes se sont battus. Mestorino a fini par tuer le courtier. Puis il a enroulé son corps dans une couverture et l'a conduit en un endroit peu fréquenté pour mettre le feu. Mestorino est donc confondu. Il sera jugé, condamné au bagne à perpétuité, envoyé à Cayenne, où il mourra très vite en mars 1930. L'affaire est close. Le commissaire Guillaume a bien travaillé. Il va bientôt pouvoir servir ce commissaire Guillaume de modèle au jeune Georges Simenon dans la création d'un personnage de commissaire appelé lui à connaître la gloire.
Un extrait sur Europe 1 de l'indicatif de Maigret.
Alors, ce commissaire Guillaume, chef de la brigade spéciale du quai des Orfèvres, encensé par la presse notamment pour sa réussite dans l'affaire Mestorino, le commissaire est agacé. On lui parle depuis quelque temps d'un policier de roman, un nouveau personnage imaginé par un auteur d'origine belge, Georges Simenon, un policier qui s'appelle le commissaire Maigret et qui, pour une fois, renvoie une image positive de la police. 2 romans ont déjà été publiés avec ce Jules Maigret pour enquêteur, Piètre le Laiton et Le Chartier de la Providence. Problème, pour une fois qu'un flic est présenté sous un jour favorable, l'auteur ne l'a pas rattaché à la préfecture de police, au quai des Orfèvres, mais au ministère de l'Intérieur, à la rue des Saussets, c'est-à-dire à la Sûreté Générale. Au quai d'Orfèvres, on appelle ça la maison d'en face. Il y aurait peut-être quelque chose à faire. Xavier Guichard, qui à l'époque est le directeur de la PJ, est parfaitement d'accord avec le commissaire sur ce point. On va inviter ce monsieur Simenon à venir faire un tour au 36. Et c'est ce qui a lieu. Dans le courant de l'année 1931, Georges Simenon se voit convié pour le plaisir au quai des Orfèvres. Tout est fait pour le séduire, pour l'impressionner aussi. Bien entendu, le commissaire Guillaume lui raconte en détail les soubresauts de l'affaire Mestorino, qui est encore toute fraîche à l'époque. Alors Simenon observe son interlocuteur. Que dis-je ? Il le contemple. « Ah » écrira-t-il, « cette façon de vous regarder au milieu du front comme si vous étiez transparent. » Cette façon de vous écouter avec l'air de penser à autre chose, et puis soudain de concrétiser sa pensée par un « merde sonore ». Que pouvait faire mon Maigret à moi ? Regarder l'autre et l'imiter. La cigarette en moins, naturellement. On sait que le père Jules, effectivement, préfère de loin la pipe. Guillaume présente au romancier l'inspecteur Massu, qui a joué un si grand rôle dans l'affaire Mestorino et qui deviendra le chef de la brigade spéciale, et puis d'autres inspecteurs, dont Janvier, qui dans les romans deviendra l'inspecteur Février. Je cite à propos de cette visite Claude Cancès et Charles Diaz. Au cours de sa balade dans le sein des saints du 36, écrivent-ils, rien n'échappe à l'œil avide du père de Maigret, ni les travaux en cours pour installer le chauffage central dans les bureaux de la direction PJ, ni même ce minuscule réduit qui, au premier étage de l'escalier A, face à la porte qui relie le monde policier au couloir du palais de justice, sert à ranger les balais, les seaux et les serpillères. C'est là, à l'intérieur de cet innocent et discret placard qu'il fera découvrir quelques années plus tard, dans son roman « Cécile est morte », le corps d'une pauvre femme assassinée alors qu'elle était venue rendre visite au patron de la brigade criminelle. En 1937, le père de Maigret sera présent au pot de départ à la retraite de Marcel Guillaume. Et dans Paris Soir, Simenon va se fendre à ce moment-là d'un grand papier d'hommage. C'est lui qui convainc le commissaire de publier en feuilleton dans ce même journal ses souvenirs professionnels, des souvenirs devenus célèbres et intitulés « 37 ans avec la pègre ». On peut dire qu'à cette époque-là, la réputation du 36 quai des Orfèvres n'est plus à faire.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Et nous évoquons aujourd'hui le 36 quai des Orfèvres avec Claude Cancès, ancien directeur de la police judiciaire parisienne, Charles Diaz, contrôleur général de la police nationale, et Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.
Bonjour à tous les trois, merci d'être ici. Alain Acco, vous êtes évidemment la voix que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1 dès qu'il s'agit de parler de justice, de police, d'affaires en cours. Vous êtes en terrain conquis, vous, au 36 quai des Orfèvres ?
Conquis, non, jamais. Justement, le 36 ne se conquiert pas. On y est toléré, on y est vaguement accepté quand on est journaliste, de temps en temps chassé. Mais ce sont toujours des moments forts. Quand on monte l'escalier mythique du 36.
Tout ça n'a pas tellement changé. Alors évidemment, ça se modernise peu à peu, mais il y a toujours cette atmosphère assez particulière, quand même, il faut le dire.
C'est ça, la police se modernise, la police change, évolue. Ceux qui sont là aujourd'hui pourront en témoigner. Mais il reste une ambiance, il reste une âme qui transpire des murs du 36, incontestablement.
Il fut une époque où vous étiez à Zademeur, les journalistes. Vous aviez vos bureaux au 36 Quai des Orfèvres.
Je suis arrivé après cette époque.
Il y a un roman de Simenon qui s'appelle « Maigret tente un piège », du reste, où l'on voit, c'est tous les rapports entre police et presse. Et on voit les journalistes à demeure.
Dans le vieux film de Clouseau, 36 quai des Orfèvres, on voit Jouvet sortant du bureau, il vient d'interroger les suspects.
La foule des journalistes.
Une nuée de journalistes qui sont sur le palier. Et j'ai connu, et Charles aussi, a connu cette époque-là.
Oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à un moment donné, on a placé un planton au deuxième étage pour empêcher justement que les journalistes aillent dans les étages supérieurs.
Oui, parce qu'ils s'étaient vraiment installés. En fait,
ils étaient sérieux, ils ne balançaient pas, comme on dit entre nous. Mais un inspecteur qui sort d'un bureau en train d'interroger un suspect, sourire aux lèvres, eh bien l'AFP, dans la seconde qui suit, annonçait « il a avoué l'auteur
». Et parfois, évidemment, la police a su jouer de ça. On a utilisé un peu la presse pour faire avancer quelques affaires.
Je fais partie des flics qui disent qu'on a besoin des journalistes, c'est évident. Il faut choisir ces journalistes. C'est comme dans la police, dans la magistrature, il y a des bons journalistes, il y a des bons flics, et puis il y a des ripoux et il y a des journalistes nazes, comme on dit chez nous.
Alors pour parler de vrais policiers, nous allons commencer par la figure d'un faux, ou en tout cas d'un policier imaginaire. J'ai introduit les choses en évoquant bien entendu la célèbre silhouette de Jules Maigret, avec son feutre, sa pipe, cette carrure impressionnante, longtemps incarnée par Jean Gabin, et qui maintenant dans l'esprit des Français, je crois, s'est identifié à Bruno Kremer. Est-ce qu'on peut dire, Charles Diaz, que Maigret est l'archétype du commissaire de police tel qu'il existe au Quai des Orfèvres, ou tel qu'il a existé entre les années 30 et 50, disons ?
Eh bien, pas du tout. En fait, c'est vraiment Simenon qui l'a inventé. Je veux dire que quand on regarde ce qui s'écrivait, ce qui les descriptions qu'on faisait des policiers à la Belle Époque ou on va dire dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, c'est plutôt un policier très gros, mais gros, vous voyez, pas puissant, pas épais, pas fort, gros, avec des grosses chaussures, pas affûté du tout. Et c'était malheureusement l'image que traînait une certaine police de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de connivence avec la police politique, il faut bien le dire. Hein. La police judiciaire n'avait pas encore trouvé...
On revenait de loin.
Oui, la police judiciaire n'avait pas encore trouvé ses lettres de noblesse. Et tout l'intérêt de ce commissaire Maigret, c'est finalement de ressembler à ce qu'on attend d'un policier. D'ailleurs, Simenon dit que Maigret voulait être raccommodeur de destin, quelqu'un qui peut changer la vie des gens en bien. Et c'est pour ça qu'il devient un policier totalement positif. Il est le contraire de ce policier qui se mêle de tout, qui fait peur, qui n'attire que des ennuis. Il essaie de régler des problèmes. Voilà.
Alors le commissaire Guillaume et puis Xavier Guichard, qui dirigeait à l'époque la PJ, vont s'intéresser de près à ce personnage parce qu'ils se disent qu'après tout, ça peut servir non seulement à leur image dans l'opinion, mais aussi de modèle aux futurs policiers.
Oui, et ce que vous n'avez pas dit, Franck, c'est que c'est surtout une guerre des polices.
Alors voilà, ça on va y venir.
Polices. À l'époque, il y a deux grandes institutions policières. D'un côté, la préfecture de police, qui est compétente sur Paris et le département de la Seine. Et de l'autre côté, la Sûreté. La Sûreté qui est compétente sur tout le reste de la France.
Et qui dépend directement du ministre de l'Intérieur.
D'un directeur de la Sûreté qui dépend du ministre directement. Et alors le problème, c'est que le Maigret qui apparaît dans Piètre le Laiton, il appartient à une brigade qui dépend de la Sûreté. Et pas de la préfecture de police. Donc, quand Xavier Guichard invite Simenon, c'est pour tenter de le faire
récupérer.
Et il réussit. Et il réussit parce qu'il faut bien le dire. L'opération de charme, l'opération de communication, la visite qu'il fait de tous les services, parce qu'il l'emmène visiter la Mondaine, il l'emmène visiter le service des garnis, l'identité judiciaire. Et c'est formidable pour un jeune. Il était quand même journaliste de formation, Simenon. Et tout d'un coup, on lui ouvre des portes qui jusque-là étaient toujours restées fermées. C'est extraordinaire et il va savoir récupérer tout ça.
Il va trouver là plus qu'une matière, il va trouver un univers en vérité.
Ouais.
Est-ce que cet univers, Claude Cancès, on finit par se fondre dedans? Est-ce qu'on peut un jour rompre avec ça, avec cette atmosphère spécifique du 36 Quai des Orfèvres?
Oh, je crois que Charles et les collègues qui nous écoutent ne me démentiront point si je dis que lorsqu'on a passé quelques années dans ce lieu mythique, et pour ce qui me concerne, j'ai passé 35 ans de ma vie, on a le virus inoculé du 36, c'est pas jusqu'à la fin de sa carrière, à vie. Je vais vous dire, c'est très simple. Il ne se passe pas une journée sans qu'un média évoque une affaire traitée par le 36. Le mot 36 n'est pas prononcé, mais Strauss-Kahn, Château des Rentiers, c'est le 36. La Brigade de protection des mineurs, joli film qui vient de sortir, que je n'ai pas vu, mais que je me promets d'aller voir. C'est le 36 qui a les enfers. La brigade anti-gang, c'est le 36, bien sûr. Le stup, on parle que de brigade anti-gang, de criminels et de stup, mais il y a tous ces services. Les SDPJ 92 qui travaillent sur la périphérie lorsqu'ils prennent un meurtre, c'est le 36. Donc comment voulez-vous, étant à la retraite, sauf à se boucher les oreilles, à ne pas regarder la télé en permanence, on vit au rythme de la journée, au rythme du 36. Et même, il n'y aurait pas ça, je vais vous dire. Lorsqu'on a vécu quelques années à la criminelle, il y a des affaires qui ne vous lâchent pas, celles que vous n'avez pas solutionnées. Et auquel vous pensez encore.
Est-ce qu'on peut dire que le déménagement programmé du 36 Quai des Orfèvres va marquer une rupture terrible?
Vous savez, quand le préfet Verbrugge m'a installé comme directeur, il n'a eu de cesse de me dire, il était venu m'installer au Quai des Orfèvres et nous avions la réunion hebdomadaire dans son bureau, entre le 36 et son bureau, il n'a pas arrêté de me dire... Cancès, tant que je suis préfet de police, parce que déjà, c'est un serpent de mer, on parlait du déménagement des tracis, on ne déménagera pas. Et je lui ai dit ceci, j'ai dit, monsieur le préfet, je fais partie d'un de ceux qui auront, mais vraiment, qui seront très très peinés, déchirement de côté le 36, mais il faudra bien un jour ou l'autre quitter le 36, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Une commission de sécurité passerait à l'heure actuelle au 36 qui est des enfers, on ferme tout de suite la boutique.
Il est prévu de partir en
2017, je crois. Les travaux vont commencer en 2013, si j'ai bien compris.
Dans les prochaines années, oui.
Ça va être dans une sorte de grande tour, désormais. Ce sera...
Oui, avec le tribunal de grande instance De Paris.
Alors, nous ne faisons pas, ça tombe bien, on fait très peu de prospectives à ce micro. Donc, dans cette émission, on parle très peu de ce que va devenir la police judiciaire. On va plutôt revenir sur la bonne époque et nous plonger dans ce bain littéralement tellement spécifique que nous aimons tellement, dans ce bain du 36 Quai des Orfèvres. Nous allons revenir sur un certain nombre des grandes affaires de la police judiciaire et puis sur un certain nombre de grandes figures également.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités sur Europe 1, Claude Cancès et Charles Diaz, co-auteurs du livre Histoire du 36, illustré chez Jacob Duvernay. Il est sorti il y a 4 jours à peu près.
Oui, c'est un superbe album bourré de très belles illustrations. Et il y a en sus, dans ce livre, une sorte de grande carte de Paris. Et je dis ça puisque nous ne sommes plus très loin du week-end du 11 novembre. Je pense que ça peut être amusant pour nos auditeurs. Vous avez un véritable parcours du crime. C'est le Paris du crime avec un certain nombre, il y en a une 24 grandes affaires, grands crimes qui ont été identifiés à l'endroit précis. Alors on vous montre où ça a eu lieu, donc vous pouvez vous rendre sur les lieux du crime en quelque sorte.
Oui, et sur les affaires non élucidées, essayez de voir si nos auditeurs ne peuvent pas
après
nous
apporter des
pistes. Pourquoi pas ?
Oui, ce serait presque le thème d'une autre émission, un peu dans l'esprit de ce que faisait Pierre Bellemare sur cette
Exactement,
même antenne pendant très longtemps. Vous nous disiez, Charles Diaz, tout à l'heure, que la police a longtemps été en guerre. Alors, il y avait deux grandes équipes qui se faisaient la guerre. D'où venaient-elles l'une et l'autre ? Ça, il faut qu'on fixe ça clairement avant d'évoquer les affaires elles-mêmes.
Non, en fait, ça remonte à la construction historique de la police en France. En fait, il faut remonter à Louis XIV et à sa décision...
La Reynie ?
Exactement. À sa décision de séparer les fonctions de police et de justice en France. Jusque-là, elles étaient rassemblées entre les mains d'un seul homme, lieutenant criminel. Et tout d'un coup, le roi dit, on crée une fonction de lieutenant général de police. Et donc à partir de là, se développe à Paris et dans sa banlieue ce rôle particulier de la police ayant un seul chef. Ensuite, en 1800, Napoléon Bonaparte va transformer, la situation va faire qu'on va transférer la majeure partie de ses fonctions au préfet de police de Paris, et ça va rester jusqu'à de nos jours. Dans le même temps, pour le reste de la France, À une époque, en 1884, on décide de mettre des polices municipales partout. 1941, on met des polices, une police d'État dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et dans le même temps, se créent les brigades régionales de police mobile, police judiciaire dans toutes les régions. Seulement, elles dépendent de la direction de la Sûreté nationale. Et donc, c'est une maison concurrente. Parce que, c'est évident, les voyous... Quand ils font leur coup, ils se demandent pas s'ils sont sur le territoire de celui-ci ou de celui-là. Mais quand les policiers les recherchent, il peut arriver, et il est arrivé assez souvent, que ce soit sur le même terrain. Et donc, ça donne des conflits, des guerres,
une petite concurrence.
Parfois très méchantes. Il y a eu des exemples quand même très, très, très durs où on a vu des policiers d'une maison faire échouer une opération montée par l'autre maison.
Encore que lorsqu'un cadavre était découvert à la limite de deux territoires de compétence, le premier service intervenant, si l'affaire lui plaisait pas, il poussait le cadavre sur le territoire de cet arrivé.
À partir de quand est-ce qu'on s'installe au 36 Quai des Orfèvres, la PJ s'installe?
Moi, quand je suis rentré en 63, j'étais préfecture de police.
Oui,
mais ça remonte à l'affaire Mbarka.
Voilà, mais ça ne remonte pas l'installation de la PJ.
Fin du 19e.
Oui, voilà. J'étais pas sur le même.
Nous avons retrouvé un document qui date très exactement cette installation à 1888. Mmh. Il faut savoir que lors de la Commune, les communards incendient un certain nombre d'édifices parisiens, dont la préfecture de police.
Et ces fameuses archives, d'où le gros problème pour les historiens de la police et de la justice.
Tout à fait. Et donc, la préfecture de police s'installe provisoirement dans la caserne de la Cité, que finalement elle ne quittera plus jamais. Mmh. Et on reconstruit toute la partie du palais de justice brûlé pour y mettre la préfecture de police. Mais en 1878, quand on montre au préfet les plans, il dit « Mais comment voulez-vous que je m'installe là? C'est trop petit !» Donc, il refuse de quitter la caserne de la Cité et il dit « Puisque la PJ est juste à côté, elle n'a qu'à s'y installer. » Et voilà comment en 1888, Goron, le patron de la police judiciaire, donne comme nouvelle adresse le 36 quai des Orfèvres.
Les locaux crado, c'était pour la PJ. Vous savez, quand on parle du quai des Orfèvres, c'est un petite superficie dans toutes ces ensembles magnifiques, la Sainte-Chapelle au milieu, il y a des salles, la cour de cassation, il y a un plafond magnifique, les cours d'assises, etc.
C'est l'ancien palais.
Et la criminelle est installée sous les toits. On l'a vu dans l'affaire Durne.
Et là où Claude a raison, c'est que quand on retrouve les archives de cette époque-là, on voit bien que parce qu'elle est loin du cœur du préfet de police de l'époque, la police judiciaire a tout en retard. Par exemple, le téléphone ne sera installé que très très tardivement. C'est un des derniers services qui aura une liaison téléphonique.
C'est un paradoxe quand même.
C'est comme ça. Il y avait peu de moyens. Il faut savoir aussi, l'administration disposait de très peu de moyens.
Le grand homme, celui qui va rendre ce service célèbre, c'est Bertillon, bien entendu.
On est à la même époque.
Fin du 19e, donc, voilà. Les années 1890.
Et donc, ce petit employé aux écritures, fils du directeur de la statistique de la Seine, qui invente un système de reconnaissance des récidivistes par leur mesure, l'anthropométrie judiciaire. Et c'est extraordinaire parce que, finalement, Bertillon se trompe tout à fait. Son système va mourir. Mais dans le même temps, il invente le traitement des scènes de crime, la recherche des traces et indices.
C'est le début de la police scientifique,
exactement,
en quelque sorte.
Exactement. Et il incorpore, alors qu'elles vont détruire son propre système, les empreintes digitales. Et il réussit en 1902, ce que nous racontons dans le livre, la première identification à distance d'un criminel, c'est l'affaire Schaeffer.
Alors vous racontez dans le livre, évidemment, vous évoquez la période extraordinaire de cette belle époque avec les anarchistes, l'histoire de la bande à Bono, etc. Vous parlez des grandes enquêtes de l'entre-deux-guerres et j'ai fait une petite allusion tout à l'heure à cette époque donc où Simenon visite pour la première fois le 36 quai des Orfèvres. Vous évoquez aussi la brigade mondaine parce que il n'y a pas que la criminelle au 36 quai des Orfèvres. C'est une juxtaposition d'un certain nombre de services, Claude Cancès.
Eh oui, oui, oui. Vous évoquez la brigade mondaine. J'y ai vécu pendant 9 ans. Et c'était une autre époque. Il y a des choses qui ont évolué, d'autres non. Vous savez, quand j'entends parler de prostituées dans des grands hôtels, à cette époque, il y avait des prostituées qui fréquentaient les grands hôtels à l'insu des responsables ou avec la complicité des portiers. Et là, rien n'a changé.
Ce qui a changé, c'est la loi Martrichard après la guerre. Là, évidemment, on ferme les maisons closes. Mais à partir de 1946, effectivement, je crois que les choses restent assez stables. Vous êtes arrivé quand, vous, au 36 quai des Orfèvres?
Alors, j'ai débuté un petit peu comme, ça peut paraître présomptueux, mais comme Maigret. J'ai débuté sur Pigalle à faire les petits roulotiers, les petits casseurs, les petits julots. On appelait ça les julots à la mi-de-pain.
Les julots
à la mi-de-pain.
Oui. Et j'avais un petit indique, puisqu'on parle des indiques. À l'époque, j'ai commencé comme ça par un vieux flic m'avait passé son indique qui surveillait. Vous savez, sur le Sébastopol, il y avait des magasins de vêtements et puis il y avait toujours un gars qui gardait les vêtements qui étaient exposés à l'extérieur. Et lui, toute la journée, il était là, donc il voyait le va-et-vient des prostituées. Il relevait le numéro de voiture. Et alors, on était abreuvés de julots à la mie de pain, bien entendu, qui était facile à faire tomber. Les gros julots, c'était autre chose. Ça a été après à la mondaine. Donc j'ai débuté comme ça et puis je suis arrivé à la mondaine quelques mois après.
Et quelles ont été les premières grandes affaires sur lesquelles vous avez été placé?
Ah, la première grande, c'est l'affaire Benbarquin, où j'étais pas impliqué, mais il se trouve que l'enlèvement du leader, l'opposant marocain, le groupe dans lequel j'étais, qui s'appelait la Garlanderie, ça ne s'invente pas, nous étions dans le même bureau avec la brigade des stupéfiants. C'était 6 fonctionnaires. Et donc, les deux flics qui ont procédé à l'interpellation de Benbarca, je peux citer leur nom, il y en a un qui est mort depuis, mais Souchon et Watteau, je l'ai rencontré au quotidien, mais je puis vous dire, je suis totalement étranger à cette affaire, mais qui a marqué, qui a entraîné finalement la refondation, la fusion de la préfecture police nationale au sein de la direction générale de la police nationale.
Par une loi de 1966, oui.
Voilà, vous voyez. Alors ça, c'était la première grande affaire. La seconde, c'est l'affaire Markovic, bien entendu, où j'ai été détaché. Là, c'est la PJ de Versailles qui était compétent, mais il leur fallait deux officier de police judiciaire pour des problèmes de compétences territoriales pour assister à la PJ Versailles lorsqu'ils venaient travailler sur Paris. Et ils étaient en permanence sur Paris.
L'affaire a démarré à Versailles et puis très petit à petit.
Voilà, donc j'étais détaché, j'étais parti pour une semaine, puis je suis resté un an et demi et là j'ai beaucoup appris, non seulement sur le milieu du showbiz, mais sur le milieu des grands banditismes, parce que j'ai vu défiler la fine fleur du grand banditisme dans les bureaux de la PJ de Versailles. Ça a été très, très instructif pour un jeune flic.
Vous vous êtes rencontrés tous les deux en 1982.
Ah. Je parle, tu parles.
Tu peux raconter.
On sent une certaine complicité entre vous.
Ce sont des
co-auteurs, en fait.
Mais non, mais c'est...
Moi, j'étais un tout jeune inspecteur et j'étais quatrième de groupe d'un groupe de la brigade criminelle. Donc, je ne dis pas que c'était comme dans Maigret, que je passais ma journée à aller chercher des sandwichs. Mais bon, c'était plutôt les surveillances, les filatures, les enquêtes de voisinage. Et puis, Claude était numéro 2 de la brigade criminelle. Donc, il y avait un univers entre nous deux à l'époque. Et je te laisse raconter la suite, Claude.
Oui, vous savez, je le dis souvent, le rêve de tout flic qui est au 36 et qui réussit un petit peu à monter les échelons, parce que je vous ai dit, j'ai débuté comme inspecteur à l'époque,
ouais, bien
sûr. C'est pas d'être le patron du 36 que j'ai été, c'est d'être le Maigret du 36. Ouais. Le patron, occuper ce bureau qui est fascinant.
Bureau mythique.
Et je l'ai jamais été. Et par contre, je l'ai été par intérim au mois d'août 82. Et là, c'est là où Charles et moi, nous nous sommes rencontrés. On en a pris plein la figure. Les attentats toutes les nuits, actions directes, les Corses, les Arméniens. L'attentat de la rue des Rosiers, 6 morts, 20 blessés. À la fin, du moins, cerise sur le gâteau, les Irlandais de Vincennes.
Eh oui.
J'ai senti, vous savez, le flic, au bout d'un certain temps, on a un petit peu d'intuition. Je me suis dit, ce mois d'août, il va être très, très chargé. Dès le lendemain de l'attentat de la rue des Rosiers, j'ai réuni tous mes chefs de groupe et je leur ai dit, dites-moi, donnez-moi un gars qui est capable, on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, de me faire une synthèse de tout ce qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre.
Une sorte de récapitulatif, en fait.
Le tableau, etc. Le lendemain, son chef de groupe, Desfarge, m'amène le tableau. Je dis, mais qui c'est qui a fait ça ? Ah, je veux voir ce garçon-là. Et on m'a présenté, on se connaissait de vue, mais enfin, j'ai dit, Charles, formidable. J'ai vu que ça allait être quelqu'un de bien, un grand flic.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, il les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir.
Son tralala, Suzy Delair sur Europe 1, Claude Cancès en parlait tout à l'heure, Franck,
oui,
c'est la bande
film,
originale du Quai des Orfèvres de Clouseau sur Europe 1.
C'est un film qu'on a envie de revoir. Décidément, on parle de Clouseau tous les jours, vous avez remarqué en ce moment, c'est presque un thème. On va essayer de trouver un moyen d'en parler également demain, ce serait encore mieux. N'oublions pas Jean Richard, s'il vous plaît, me dit Jean-Luc par Internet, parce que j'ai cité effectivement Jean Gabin et Bruno Kremer, et j'ai oublié Jean Richard, un des trois grands interprètes. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, des grands interprètes de Maigret.
Jean Gabin.
Oui, Jean Gabin, bien sûr. Hein. Le premier grand policier parisien n'est-il pas Vidocq, demande Patrick, évidemment. Mais alors attention.
Oui et non.
Charles Diaz.
Oui et non, parce que Vidocq est un ancien, est un forçat au moment, en rupture de banc, au moment où on lui confie la création d'une brigade de sûreté à titre vraiment, vraiment officieux. Et il ne sera fait chef de service qu'après avoir obtenu ses lettres de grâce en 1818. Et donc, on peut pas considérer un policier en tant que tel. Mais il est bien le fondateur de la brigade de sûreté qui va donner naissance à la police judiciaire parisienne.
Si l'on devait retenir, parce que vous en présentez un grand nombre dans cet album, si on devait retenir trois ou quatre noms majeurs, quels ont été les grands hommes du 36 ?
Si on part de la création de la direction de la police judiciaire en 1913, création officielle, moi je dirais Xavier Guichard. Xavier Guichard, parce que c'est aussi l'homme, le tombeur de la bande à Bonneau. Je dirais ensuite, plus près de nous, dans les années 1960, je dirais, mais là je parle sous le contrôle de Claude, Maurice Bouvier, sans doute. Maurice Bouvier, et je dirais Jacques Gencial pour une période plus récente. Mais encore une fois, il y en a quand même eu beaucoup, avec des qualités très différentes. Tous ont deux choses en commun. Ils ont un extraordinaire ascendant, Et la deuxième chose, ils sont d'une grande humilité.
Ah oui.
Comme tous les grands professionnels, finalement, dans tous les domaines, j'ai remarqué que votre album était dédié à Jacques Capella. Qui est ce Jacques Capella ? Claude Cancès.
J'en parle toujours avec émotion parce que c'était un ami. On a quasiment débuté ensemble. Et il est mort dans la prise d'otage de l'ambassade d'Irak. La fusillade qui a suivi la prise d'otage, le terroriste s'était rendu. Et les membres de l'ambassade, les gardes du corps de l'ambassade d'Irak avaient reçu pour instruction de l'ambassadeur de tuer le terroriste. Bon, il y a eu une fusillade, quelque chose d'inouï. Et Jacques Capella, le terroriste n'a même pas été blessé, mais Jacques Capella a été tué à mes côtés puisque j'étais dans la voiture avec Ottavioli. Jacques Capella venait de pénétrer à bord du véhicule et il est mort à nos côtés. C'était un personnage atypique. C'était un flic toujours mal fringué, mal rasé, mais une intelligence extraordinaire. Et puis, je dis toujours, il mettait beaucoup de temps pour se faire ouvrir la porte, mais lorsqu'elle était ouverte, il obtenait tout ce qu'il voulait.
Quel grand plaisir d'écouter M. Cancès dans votre émission, nous dit Coralie. J'ai lu ce livre concernant l'histoire du 36 Quai des Orfèvres. C'est un régal, un grand moment d'histoire. On sent toute la passion et l'amour portés par M. Cancès à son 36. Quand les gens qui sont sur le terrain rentrent au 36 Quai des Orfèvres, ils disent « on rentre à la maison ».
Oui, c'est une expression, si vous voulez, lorsque... Je pense que c'est pas... Nous avons rencontré, lors d'une conférence la semaine dernière à Toulouse, un postier qui a été très ému par le fait qu'on est au 36, quand on parlait de la maison c'est le 36 avant notre maison, il dit mais dans la poste, moi il y a quelques années c'était pareil, on parlait, donc c'est pas particulier dans notre métier, mais nous c'est vrai, et nos épouses, nos familles sont là pour témoigner que notre première maison c'était, et je crois que c'est encore vrai pour ceux qui sont au 36, le 36 Quai des Orfèvres.
Est-ce qu'on peut parler d'une aristocratie, Charles Diaz, de ce 36 Quai des Orfèvres ?
Non, moi, je n'utiliserai pas ce nom. Simplement, il est arrivé qu'on considère que la brigade criminelle, notamment parce qu'elle traitait les affaires les plus saillantes, les plus connues, les plus médiatisées, qu'on parle des seigneurs de la brigade criminelle. Mais c'était parfois un peu par jalousie, moi aussi. On peut pas dire ça.
Vous savez, le métier le plus difficile dans la police nationale, on ne le dit jamais assez, c'est celui qui est dans le gardien de la paix, qui est dans le car police secours, qui part vers l'inconnu. Il ne sait pas ce qu'il va trouver.
Pas du tout ce qu'il attend,
il doit improviser. Il a un rôle capital à jouer. D'ailleurs, je leur rends un hommage à la fin de mon premier livre. En conclusion, mais chapeau. L'Antigang, lui, le gars de l'Antigang, il sait qui il a affronté. Il est équipé en conséquence. Le flicard du quart police secours, il fait un métier, on peut leur tirer leur chapeau, et de tout temps, et en ce moment encore plus.
Merci beaucoup à vous deux, Claude Cancès, ancien patron de l'APJ, et Charles Diaz. Vous êtes les co-auteurs de cette histoire du 36 illustré, le 36 Quai des Orfèvres, bien entendu, aux éditions Jacob Duvernay. Ça vient de sortir. Et puis, alors vous avez parlé de votre propre ouvrage sur le 36 Quai des Orfèvres, Claude Cancès, bien entendu. Et puis de Mathieu Frachon, dans une collection dirigée par Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, 36 Quai des Orfèvres, des hommes, un mythe. C'est également une histoire, alors vue sous l'angle justement des grandes figures de cette maison qui en a compté quand même un très grand nombre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous n'avons fait qu'effleurer une fois de plus cette matière, mais elle est tellement vive, elle est tellement forte. Et ce qui est très extraordinaire, il y a très peu de milieux dont on puisse dire ça aujourd'hui, elle parle réellement à tout le monde. Merci beaucoup à notre ami Alain Accot d'être passé nous faire un petit coucou en début d'émission. Il est là toujours présent pour vous informer de l'actualité judiciaire et policière sur Europe 1, bien entendu. Et puis merci à toute l'équipe. Nous nous retrouvons demain avec une nouvelle énigme. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un sujet beaucoup plus léger chez les experts Europe 1. Nous allons parler, allez, est-ce que George Clooney vous a fait rêver, mesdames ? Est-ce que Eva Longoria vous a fait rêver, monsieur ? Eh bien, comment leur ressembler quand a priori on part... Pas du même potentiel.
De loin, de très loin, d'accord.
Eh bien, nous, on a les réponses parce que vous avez tous une Eva Longoria qui dort en vous, tous un George Clooney qui dort en vous. On va les réveiller grâce aux experts européens. Mais si vous, si monsieur.
Claude Cancès vous dit non.
Si, voilà. Vous êtes charmant. Et tout ça, voilà, c'est sur les experts européens. Et vous pouvez bien entendu poser vos questions. C'est toujours le 3921.fr, 34 € la minute. Et europe1.fr pour
vous. Merci
ça.
Beaucoup, Elena. Il y a un monde fou autour de cette table. À
incroyable.
Demain, Julien.
À tout à l'heure. Ou à demain même, Franck, effectivement. Oui.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.